Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À la suite de notre émission diffusée hier vendredi qui s'inscrivait dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes, nous poursuivons aujourd'hui la mise en lumière de celles qui rendent visible la moitié de l'humanité. Ainsi, nous serons en ligne tout à l'heure avec Marie Barbier, l'une des quatre cofondatrices de la nouvelle revue trimestrielle, joliment intitulée « La déferlante », qui se revendique comme la publication des nouvelles révolutions féministes. Mais pour l'heure, j'accueille un auteur homme qui vient de publier son premier roman sous le titre « Autopsie pastorale » aux éditions de l'Aube. Un docteur en éthique médicale franco-suédois qui, après avoir longtemps exercé en Suède, travaille en France. Bonjour Frasse Mirkatsson.
Bonjour.
Un nom suédois pour un livre écrit en français. Quelle part en vous appartient à la Suède et quelle autre part à la France? Ou plus simplement, quelle est votre histoire?
Alors, mon histoire, j'ai effectivement la double nationalité. Je suis né, j'ai grandi à Carcassonne de parents français. Et un jour, à l'occasion d'un voyage en Suède, je suis tombé, mais complètement amoureux du pays, de la langue, de la culture. C'était au mois d'août, il faisait toujours jour. Je trouvais ça absolument magique. Et j'ai décidé un jour d'y vivre, voilà.
Alors, vous aimez tellement ce pays, donc que vous avez choisi un patronyme suédois. Vous ne vous appelez pas Frasse Mirkatsson?
Non, pas du tout. En fait, c'est une traduction de mon nom français, parce que quand je suis arrivé en Suède, mon prénom était absolument imprononçable. Donc, le chef de service m'a dit « Écoute, là, non, c'est pas possible, donc il va falloir te trouver un nom. » Alors, le français, Fransman, c'était Frasse. Voilà, donc c'est comme ça que c'est venu.
Donc vous êtes né en France, vous êtes exilé d'une certaine façon en Suède, dans la mesure où vous avez pris cette nationalité.
Oui.
Pourquoi? Ça, c'est un acte fort.
Oui, parce que pour moi, je me suis complètement intégré à cette civilisation. J'ai fait en sorte de ne pas avoir de français, de m'immerger vraiment dans le monde suédois, de parler tout le temps en suédois, de rêver en suédois. J'ai adopté les us et coutumes et prendre la nationalité suédoise, ça me semblait un aboutissement logique.
Voilà. Et néanmoins, vous êtes ici avec nous aujourd'hui à RFI, dans un studio à Paris. Ça veut dire que vous êtes revenu vivre en France?
Oui.
Pourquoi?
Alors, ça a été un vrai déchirement parce que en étant homosexuel étranger, on pouvait adopter un enfant. Et un jour, avec mon mari, nous attendions un enfant. Mon mari avait une entreprise en France. Moi, je pouvais, en tant que médecin, trouver du travail en Suède. Et il était plus possible de faire ces allers-retours avec un enfant. Et du coup, le départ était inévitable.
Alors néanmoins, vous êtes en France aujourd'hui, mais visiblement, la Suède vous manque toujours, puisque ce premier roman, Autopsie pastorale, se déroule au sein d'une équipe de légistes sollicités dans le cadre de la mort apparemment naturelle d'une femme, pasteur à la retraite, et qui pour certains cache peut-être un meurtre. Et c'est ainsi que nous lisons une enquête un peu en marge de celle de la police, l'enquête de ces médecins qui creusent une piste suite à quelques indices discordants. C'est ce que vous faites, vous aussi, dans votre métier?
Oui, c'est ça. Donc là, ce roman, il débute sur un type d'enquête qui est fréquente en médecine légale, et notamment à Paris, c'est des gens isolés qui décèdent à domicile et où il faut plusieurs jours avant de les découvrir. Voilà. Et on dit souvent, la porte était fermée, c'est une personne âgée, on ne va pas chercher plus loin. Et le propre du médecin légiste est quand même de retourner toutes les pierres, de chercher le moindre détail. Voilà.
Donc par exemple, ça vous est arrivé, vous aussi, de vous retrouver face au corps d'une personne dont on pensait qu'elle était décédée naturellement. Mais en fait, vous avez pu, vous, vos confrères et consoeurs, déceler des indices un peu étranges qui ont fait que vous avez mené une enquête, même si la police ne la demandait pas ?
En Suède, le médecin a un rôle, on va dire, d'enquêteur. Il n'y a pas du tout la même législation qu'en France. Donc, on est en... Je ne vais pas dire on est en droit, mais on demande des fois aux policiers s'ils peuvent faire des comptes rendus d'auditions complémentaires. On a une certaine collaboration. Et on a une certaine légitimité, c'est ce qu'on voit sur le corps. Je me souviens très bien d'une autopsie où une femme était décédée chez elle. Il y avait, apparemment, elle fumait dans son lit. Et le lit avait pris feu, elle était décédée. Et à l'examen, on avait des marques de strangulation. Donc là, effectivement, on est quand même en droit d'appeler la police et de dire, pour nous, ce n'est pas comme ça a l'air. Voilà. Donc ça, c'est dans notre rôle, quand on voit des choses comme ça qui nous alertent.
En tout cas, ça a l'air beaucoup plus romanesque d'être médecin légiste en Suède qu'en France, donc.
Il y a peut-être, oui, une part enquêteur qui est plus développée, effectivement, en Suède. Après, voilà, c'est un roman, donc ça a l'air, peut-être en le lisant, beaucoup plus glamour que ce n'est. Voilà.
Dans la réalité. Alors, revenons au roman, donc, avec vous, puisque au-delà de cette intrigue policière qui va régaler les amateurs de science et de toxicologie, parce qu'ici sont examinées toutes les sources et circonstances qui font que la victime lit le mort... Je ne sais pas si je prononce bien ce prénom.
Alors, c'est Lillemour et ça veut dire petite mère.
Alors, Lillemour avait un taux important d'arsenic et de plomb dans le corps. Autopsie pastorale se distingue aussi par son immersion en Suède, donc votre pays d'adoption, que vous nous faites découvrir via un personnage français, Pierre, médecin, interne dans ce service de légiste. Compte tenu de ce que vous nous avez dit un peu plus tôt, on imagine que c'est un peu votre double littéraire. Et il nous sert de guide dans la culture suédoise. Et c'est l'occasion aussi de rire de quelques clichés de part et d'autre. Par exemple, comme Pierre ne boit jamais d'alcool, cela déstabilise ses collègues suédois parce que ça ne correspond pas à leur conception du monde. Et sa chef va même jusqu'à dire, et c'est très drôle, qu'un Français qui ne boit jamais ne peut être qu'un psychopathe. C'est donc une idée reçue très répandue qu'en France, forcément, on boit du vin.
Oui, il y a quand même l'idée que le Français est un bon buveur, que l'alcool est complètement interdit au travail en Suède.
En France aussi.
Sauf certaines règles. Alors, moi, là où je travaille, dans le règlement intérieur, il y a quand même des autorisations. Alors après, ça dépend de la quantité, du degré d'alcool, mais il y a des autorisations.
Et alors, à l'inverse, Pierre découvre quelques caractéristiques des Suédois. Par exemple, qu'ils ont peur de blesser,
oui.
Qu'ils ne comprennent pas toujours l'ironie, et aussi que c'est un peuple qui fait preuve d'une grande humilité. Est-ce que ce sont des sources de malentendus que vous avez pu vivre, par exemple, vous aussi ?
Oui, énormément. Il y avait vraiment un énorme décalage culturel au début et je ne connaissais mais absolument pas les codes. Je suis arrivé dans le pays en parlant couramment le suédois et j'ai fait des grosses erreurs de communication. Voilà, je n'avais pas les codes. Le premier jour, j'ai embrassé sur la joue une collègue qui était stupéfaite, qui ne comprenait pas... ce qui se passait, elle est restée vraiment interdite. Après, je maniais l'ironie, ce que les Suédois ont quand même du mal à comprendre. Et l'idée que quelqu'un pense quelque chose, mais va dire l'inverse en pensant que l'interlocuteur le comprend, ça peut être vu pour pas mal de Suédois comme une idée tordue. Voilà, on dit ce qu'on pense et pas l'inverse de ce qu'on pense. Donc... Mon chef de service, qui avait voyagé notamment aux États-Unis un jour, m'a mis dans les mains un livre qui s'appelle « Mentalité suédoise de Åkerdaun ». Il m'a dit « Voilà, lis et tu comprendras ». Et là, j'ai compris toutes les erreurs que j'avais faites de manière rétrospective.
Alors néanmoins, ce qu'on découvre avec vous, c'est qu'il y a une très grande ouverture concernant les étrangers. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui, moi j'étais vraiment surpris de l'accueil que j'ai eu, de la manière dont ils s'adaptent, dont on vous parle anglais, ou alors vous pouvez avoir des interlocuteurs qui vont parler votre langue. Il y a 8 ou 9 langues au centre des impôts et il faut vraiment s'adapter, s'ouvrir à l'autre.
Et de la même façon, Pierre, qui sans s'en cacher est homosexuel, dit que ce qui pourrait être un handicap devient un avantage en Suède. Pourquoi ?
Parce que il y a vraiment une peur de blesser les minorités en Suède. Il y a
donc
vraiment...
on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les pratiques culturelles.
Voilà, il y a l'anecdote où moi j'avais un ami qui était professeur de génétique à l'université de Paris, qui s'est marié avec une Suédoise. Il était invité à l'hôpital Karolinska et il a eu droit, comme dans Green Card, on l'a mis dans une salle séparée de sa femme en disant « Est-ce que ce professeur d'université va essayer de vivre au crochet de la société suédoise ?» Donc ils ont eu des questionnaires croisés, alors que des amis homosexuels qui avaient un contrat, par exemple, d'homme de ménage limité dans le temps, dès qu'ils ont dit... ils étaient homosexuels et en couple avec un garçon, même si c'était pas vrai, on ne les a jamais convoqués. Voilà. On avait dit, si jamais l'Office des migrations expulse un homosexuel parce qu'il n'est pas dans une relation, comment ça pourrait être vécu ? Oui.
Revenons à votre enquête, qui cherche à savoir, on l'a dit, si la femme pasteur a été victime d'un meurtre ou pas, et dont nous ne pouvons pas dire davantage parce que ce serait déflorer le rebondissement final qui est vraiment assez inattendu. Néanmoins, il se trouve que cette enquête nous mène sur les traces d'un écrivain suédois.
Gunnar Ekelöf.
Voilà, je vous laisse le prononcer, qui a véritablement existé.
Oui.
Est-ce que c'est un auteur que vous lisez, que vous aimez ?
Oui, je l'ai pas mal lu. C'est un auteur... de la première moitié du XXe siècle. Dans le classement, alors je crois de l'Académie suédoise, il est parmi les plus grands poètes ayant existé. Il a pas mal traduit d'auteurs français. Alors je crois qu'il y a Gide, Apollinaire. Il a introduit le surréalisme en poésie en Suède. Et c'est quelqu'un qui vivait à Sigtuna, là où je vivais également. Et ça m'a...
Qui est à quoi, une centaine de kilomètres de Stockholm ?
Voilà, 70.
70.
Voilà. Donc c'est juste à côté de l'aéroport Arlanda.
Et donc en effet, il vivait là-bas et je précise qu'il sert en fait de passerelle avec votre
oui.
histoire contemporaine. Puisque avant sa mort, en 1968, il aurait été en contact avec un poison qui peut-être est la clé de votre affaire. Et d'ailleurs, je crois même que c'est une exposition dans cette ville où il a vécu, qui a déclenché l'écriture du roman, ou en tout cas l'idée de cette histoire assez machiavélique.
Oui, c'est ça. L'histoire, elle a été déclenchée quand j'allais à la maison du conseil de Sigtuna et que j'ai vu effectivement une fiole où il y avait, qui était exposée en disant ben, « on ne sait pas ce qui s'est passé ». Et elle a été retrouvée en 1968, alors elle est restée là dans les archives pendant 33 ans. Et là, je me suis dit, mais 68, mais Ekelöf est mort cette année-là. Donc, est-ce que lui, il pourrait l'avoir récupéré, cette fiole ? Voilà, c'est ce lien de cette année qui a fait la jonction.
Et voilà comment la littérature s'inspire de la vie ou d'un moment précis ou inventé d'un écrivain pour donner naissance à un roman policier. Est-ce que vous-même, vous êtes un lecteur, justement, de romans policiers et de cette vague nordique de polar, dont les plus célèbres, sans doute, sont Stieg Larsson, évidemment, l'auteur de la trilogie Millennium, complétée par David Lagercrantz, ou encore Henning Mankell, créateur de Wallander?
J'ai eu des périodes où je me disais, mais je ne comprenais pas qu'on puisse lire des polars, parce que quel plaisir on a à voir un tueur fou exécuter des gens alors que dans notre métier, la mort est réelle. Et je m'étais dit à une période de ma vie, mais moi jamais j'écrirai de polars. Voilà. Après, j'ai lu beaucoup, je crois quasiment tous, les Henning Mankell. pour moi, c'est des livres de sociologie. Voilà, ça se dit, c'est vraiment, c'est l'état de la police dans les années 90. Voilà, c'est un vrai témoignage. Et après, je suis aussi fan de L'Arche Kepler. C'est en fait un couple. Et je trouve que leurs intrigues, la façon dont tout s'est enchaîné est extrêmement inventif. C'est assez drôle en lisant. Voilà, on voit le soubassement.
Dernière petite parenthèse. Vous êtes médecin légiste. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette terrible pandémie du coronavirus qui, depuis un an maintenant, nous touche tous? Est-ce que ça impacte votre métier, votre quotidien?
Oui, ça impacte notre quotidien. Déjà, les personnes qui décèdent du Covid, on a vu les vagues, on a vu les morts du Covid, et surtout, on a vu les suicides, une augmentation dans des proportions qui étaient vraiment effrayantes.
Et pourquoi des suicides? Vous voulez dire à cause de la crise psychologique qui est inhérente au confinement, à l'angoisse?
Oui, il y a plusieurs phases. On a vu un moment où il n'y avait plus de perspective. On ne savait pas quand ça allait finir. Et là, on a vu vraiment une augmentation des suicides. Les gens ne se projetaient plus. Ils avaient résisté pour le premier et ils sentaient que c'était le deuxième. Quand est-ce que ça prendrait fin? Est-ce qu'il y aura un troisième?
On va finir sur une note plus gaie et sur de la musique, puisque dans votre roman, vous faites allusion brièvement à une chanteuse, mais néanmoins, vous avez souhaité qu'on écoute son titre. Alors, elle s'appelle Veronica Maggio, mais je vais vous laisser prononcer le titre de sa chanson.
Alors, c'est « Fins de en, so fins de flera ». Et ça veut dire, s'il y en a un, c'est qu'il y en a forcément plusieurs, mais en écoutant la musique, je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire par là.
Mais c'est néanmoins une chanson que vous aimez.
Ah, j'adore cette chanson, je l'avais vue notamment en concert au moment de cette histoire, et c'est pour ça qu'un des personnages raconte l'avoir vue en concert.
Donc on se quitte avec cette chanson, et je rappelle le titre de votre roman « Autopsie pastorale » de Frasse Mikardson, qui a été publié donc aux éditions de l'Aube. Merci.
Merci à vous.
Bonjour Marie Barbier.
Bonjour.
Vous êtes l'une des quatre cofondatrices de cette nouvelle revue trimestrielle qui porte le nom très juste et très dynamique de La Déferlante, une publication dont le premier numéro est en librairie depuis la semaine dernière et qui se présente comme la revue des révolutions féministes. De quel constat est née l'envie, voire le besoin de cette publication ?
La Déferlante, elle est née d'un manque, en fait, avant tout, c'est-à-dire qu'on est quatre cofondatrices et on s'est rendu compte, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce projet, et on s'est rendu compte il y a 2 ans qu'en fait, on avait autour de nous tout un bouillonnement éditorial, militant, artistique autour des questions féministes et des questions de genre, mais qu'il n'y avait pas de revue qui concentrait ce bouillonnement-là, qui en fait répondait à nos attentes de lectrices, hein, tout simplement. Donc on a décidé du coup de combler ce manque en créant cette revue et de pour enrichir un peu le paysage médiatique français, parce qu'il nous semblait que c'était important de raconter tout ce qui est en train de se passer en ce moment.
Et de fait, en ouverture de ce numéro et dans le manifeste que vous signez toutes les quatre, et j'en profite pour nommer vos trois associés, Lucie Geffroy, Emmanuel Josse et Marion Pilla, vous écrivez que c'est un média engagé où des femmes donnent la parole à d'autres femmes, ce qui rejoint ce que vous venez de dire aussi, dans la mesure où on a l'impression qu'en 2021, la presse française est en retard sur l'évolution de la société, selon vous ?
Ah oui, bah très en retard, et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est il y a un rapport qui a été publié en septembre 2020 d'une députée, donc on appelle le rapport Calvez, et qui montre les chiffres. Hein. Partons tout simplement de ça. La presse française, c'est 75% des rédacteurs en chef qui sont des hommes, c'est 83% des tribunes qui sont signées par des hommes, c'est 74% des personnes en une des médias qui sont des hommes. Donc oui, on est parti nous de ce constat-là pour dire qu'il y avait visiblement un problème et on essaye un petit peu à notre juste place, mais de rééquilibrer ça en créant un média qui est créé par des femmes et dirigé par des femmes et qui aussi visibilise les femmes, et pas uniquement, parce que je pense qu'aussi on tient beaucoup à ce que il y ait les minorités de genre, par exemple les trans qui puissent paraître. Nous, dans le numéro 1, on a un récit d'une femme transgenre, et également les minorités sexuelles, les lesbiennes et les gays.
Et la couverture est un collage de photos partiellement découpées. Alors c'est une technique qui était utilisée par les artistes du surréalisme qui voulaient repenser le rapport de l'art à la réalité. Est-ce que vous voulez repenser la réalité via le prisme du regard et de l'expérience des femmes ?
Je ne crois pas que ce soit la repensée. Je pense que c'est une question d'angle. En fait, nous, on est des professionnels des médias, de l'information. Lucie Geffroy a travaillé au Monde, moi à l'Humanité, dans des quotidiens nationaux. Et on réécrit pas une réalité. On la regarde avec un prisme qui est celui du genre, et de dire qu'à partir du moment où on commence à regarder les choses de ce côté-là, en fait, le champ est infini pour regarder cette réalité-là. C'est-à-dire que de dire, par exemple, nous, dans chaque dossier, on va prendre un verbe à l'infinitif pour l'étudier sous ce prisme. C'est-à-dire, dans le numéro 1, on prend le verbe naître, dans le numéro 2, ce sera manger, puis se battre, aimer, etc. C'est déclinable à l'infini. Et à chaque fois, on essaye d'étudier un petit peu, par exemple, dans naître, comment est-ce qu'on est fille ou comment on est garçon, qu'est-ce qu'on nous assigne dès la naissance, voire in utero, parce qu'il y a un article qui le raconte dans ce numéro 1 de comment l'échographie déjà nous genre, en fait.
Est-ce que c'est voilà, une fille ou un garçon?
Voilà, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? C'est la question qu'on pose aux femmes enceintes systématiquement. Donc là, on voit un monde très binaire. Et cette envie de lire le monde sous ce prisme-là, pour nous, c'est important parce que ça permet de raconter en fait comment en fait les discriminations, elles s'opèrent aussi dans le champ extrêmement quotidien de tous les jours, en fait. Et c'est par plein de petites choses comme ça qu'on avait envie de décrypter, qu'on avait envie de montrer que le genre s'immisce, en fait. Et nous, c'était important que ce pas uniquement le féminisme dont on parle, mais plus largement les questions de genre.
Précisément, vous parlez à juste titre de révolution féministe au pluriel, et de fait, il y a en effet plusieurs courants, soit radicaux, soit modérés. Est-ce que votre volonté aussi serait de mettre, pour vos lectrices et vos lecteurs, de faire le point sur les débats actuellement, où les points de vue sont parfois divergents, pour ne pas dire opposés, et que parfois on s'y perd?
Oui, alors nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, il y a énormément de courants dans le féminisme, mais c'est tant mieux. En fait, c'est une pensée vivante, c'est une pensée en mouvement. Donc voilà, nous, ça nous paraît pas problématique qu'il puisse y avoir des discussions, des débats, voire plus, chez les féministes. Et effectivement, alors une volonté, oui, de raconter ces débats-là, mais sans rester au-dessus de la mêlée. Nous, on est clairement sur une ligne qui est celle de l'intersectionnalité. Il n'est pas question, par exemple, dans la revue de faire parler des gens qui auraient des propos transphobes ou des propos islamophobes par rapport aux femmes voilées. Donc voilà, oui pour raconter les débats, oui pour faire discuter les gens. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. On a une rubrique qui s'appelle Ligne de crête, et dans laquelle on fait discuter, par exemple, dans ce numéro 1, c'est que faire des violeurs. Dans le numéro 2, ce sera « Faut-il un salaire pour le travail domestique ?» Voilà, on a envie aussi de prendre un peu de hauteur, de pas rester sur des débats qui pourraient être un peu caricaturaux et qu'on peut renvoyer aux féministes sur, je sais pas, la question du voile, de la PMA, etc. On a envie d'aller un petit peu plus loin, d'historiciser aussi les choses, de raconter jusqu'où ça remonte et voilà, de prendre encore une fois un peu de hauteur.
Et est-ce que le oui veut dire aussi, par exemple, prendre parti ? Ou en d'autres termes, sur le curseur de ces féminismes, vous vous placez où exactement ?
Alors nous, on est sur une ligne intersectionnelle, c'est-à-dire que nous, on considère que c'est plus intéressant de raconter le croisement des discriminations, c'est-à-dire de parler à la fois de genre, mais aussi de classe et de race, pour pouvoir analyser en fait plus globalement en fait le système patriarcal d'aujourd'hui. Alors c'est une ligne qui est celle de scientifiques. Hein, l'intersectionnalité est beaucoup décriée aujourd'hui politiquement, mais elle est étudiée dans le domaine de la recherche. Et nous, on tient beaucoup à ce domaine-là parce qu'on a constitué un comité éditorial dans lequel on groupe des chercheurs, des chercheuses, des militantes, des militants et des journalistes. Et c'était pour nous important de multiplier les regards, en fait, de se dire qu'on ne partait pas uniquement de nos regards à nous, des quatre cofondatrices, mais qu'on aille voir plus loin parce que ça apporte beaucoup de richesse, en fait, à la revue, hein, pour ça. Et puis parce que ça nous paraît plus juste, en fait, à un moment donné, d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs et de pouvoir étudier vraiment globalement, en fait, ce système-là, de pas seulement avec un point de vue qui pourrait être peut-être un peu étroit, quoi.
Alors, cette pluralité dont vous parlez, Marie Barbier, elle s'exprime aussi dans la diversité des journalistes de ce premier numéro, des femmes, bien entendu, mais aussi, j'ai noté dans le sommaire, deux hommes, François Roch et l'écrivain Martin Page, pour une chronique d'ailleurs au titre intrigant, pourquoi je ne suis pas féministe. En d'autres termes, ça veut dire que vous ouvrez aussi à tout le monde sans volonté d'exclure qui que ce soit et d'exclure les hommes, par exemple?
Alors, on n'est pas du tout dans une démarche d'exclusion. Nous, on est plutôt, au contraire, dans une démarche pour inclure un maximum de personnes. Et évidemment que non, on n'exclut pas les hommes. Vous citez Martin Page et François Roch. Il y a également Jules Marot qui signe la bande dessinée, oui, sur les femmes de Plogoff. Il y a également Adrien Zamit qui fait une illustration sur On ne naît pas femme, on le devient. Donc, les hommes sont présents dans la revue. Après, oui, pour une fois, ils font l'expérience de la minorité, comme on fait pas souvent. Ça nous semblait quand même logique à un moment donné de créer un espace. La revue, on le pense aussi comme un lieu de débat, voilà, de visibilisation, et que cet espace-là serve aussi pour que les femmes puissent s'exprimer.
Tout cela est absolument passionnant. Alors, en quelques mots, parce qu'on ne peut pas tout dire, il y a donc cette rencontre entre la grande Annie Ernaux, une des premières à avoir écrit sur l'emprisonnement social des femmes, avec Céline Sciamma, réalisatrice. Il y a également ce reportage sur les Chiliennes qui chantent et dansent contre le viol, le portrait d'une écoféministe, Françoise Daubonne, une bande dessinée, vous le signaliez à l'instant, qui rend hommage aux victorieuses de Plogoff, et je ne peux pas tout citer, mais surtout à ne pas manquer le portfolio de Nancy Wangé Moussissa, qui met en lumière par ses photographies saisissantes des jeunes femmes en Île-de-France à la sortie du premier confinement, de plus en plus sensibilisées à une politique du changement. Pour finir, La Déferlante, c'est une revue politique ?
Ah, bien sûr, oui, on assume complètement le fait d'être une revue politique, bien sûr. Oui.
Merci encore. Je rappelle donc que La Déferlante, revue trimestrielle au prix de 19 euros, est à acheter, à lire, à découvrir, et c'est dans toutes les librairies, non seulement de France, mais également de Belgique, de Suisse et, il me semble, au Canada, n'est-ce pas ?
Au Canada, oui. Et on vient de lancer la réimpression, là. Après 5 jours de présence en librairie, on réimprime.
Bravo, c'est La Déferlante.
Merci
encore.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Lundi sur